un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, plus 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Est-ce que les drapeaux sont faits du même tissu que les robes fourreaux des grandes actrices hollywoodiennes? Et si l'on tire sur le fil, si l'on dévide la trame, reste-t-il quelque chose de l'ordre de l'égalité dans la pelote tombée à terre? Va savoir les questions qui traversent la tête des enfants, dont la vision du monde, parfois épargnée d'une compréhension du contexte, se focalise sur les détails. En novembre 1967, un enfant regarde la conférence télévisée du général de Gaulle. Est-il le seul à entendre la mauvaise liaison que l'homme politique fait entre deux mots, une liaison dangereuse que les linguistes appellent velours, le tissu. Nous y revoilà. Le tissu de nos vies suit de drôles de trames et votre roman Les Spectateurs, Nathalie Azoulay, le rend dans sa plus grande finesse. Il est paru aux éditions POL. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles n'allait pas entraîner d'incessantes, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'il serait rassemblé dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles.
Nathalie Azoulay, c'est un extrait de cette conférence de presse télévisée prononcée par le général de Gaulle en novembre 1967. Quelle place tient cette conférence télévisée dans votre roman Les Spectateurs ?
C'est le point de départ de mon histoire. C'est la première, je dirais le premier spectacle de ces spectateurs. Donc dans ce salon où est réunie une famille de 4 personnes, est attendue cette conférence depuis très longtemps. Et donc c'est le point de départ de cette sidération que je raconte du point de vue du personnage d'un enfant qui va tétaniser l'ensemble des membres de cette famille, qui va à la fois produire de l'information, c'est-à-dire que le général de Gaulle, comme on vient de l'entendre, dit un certain nombre de choses qui sont entendues par les membres de cette famille, et en particulier par ce petit garçon, qui sont comprises, mais qui tout de suite tournent au brouillage, en fait. C'est-à-dire que, comme on l'a peut-être entendu, le général de Gaulle fait une erreur de liaison qui est à la fois ténue, mais quand même très, très impressionnante pour cet enfant. Et cet enfant va se focaliser sur cette liaison dangereuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour ne plus entendre, je crois, pour ne plus comprendre ce qui vient d'être dit par le président de la République, hein, puisqu'il l'était à ce moment-là. Donc c'est le point de départ d'une sidération qui ne va cesser de grandir et qui va renvoyer mon personnage principal à un ensemble de questions pour lesquelles il n'a pas de réponse et qu'il va chercher à... remplir les blancs de ces questions restées sans réponse sur l'exil de ses parents.
Et ce sont des blancs à la fois que vous aidez à remplir, Nathalie Azoulay, et en même temps vous aidez aussi, presque avec la même force, le brouillage. Puisque je parle de cette date de novembre 1967, c'est quasiment l'une des seules dates, et elle revient à plusieurs reprises dans le roman, qui est précise, y compris sur les lieux, y compris sur les noms, pour quasiment la majorité des personnages. À quoi vous jouez avec ce brouillage-là ?
Je joue à rendre illisible un moment de l'histoire qui est trop douloureux pour qu'on puisse le lire. Et en fait, j'ai construit la première partie de ce roman d'une manière à produire autour de ces personnages, et en particulier de ce petit garçon, une sorte de forêt épineuse dans laquelle il trouve à la fois des chemins, mais dans laquelle il se perd. Et donc je ne joue pas vraiment, mais il était pour moi très intéressant et très important de rendre cette illisibilité, de rendre cette sidération et de rendre une espèce de blocage de l'intelligence sur une chose inaudible à ce moment-là par ces gens-là et par ces personnages-là. Donc c'était pour moi très important de laisser cette date, puisqu'elle était le seul point de repère et que j'en étais partie. Donc j'ai respecté cette singularité et cette clarté, finalement, cette information. Mais à partir de là, j'ai tout flouté, en fait. J'ai tout déconstruit pour que, justement, l'apparition du général de Gaulle et le discours du général de Gaulle deviennent une espèce de nuage de nuage inaudible à l'intérieur de ce salon, de brouhaha, de clameur, à l'intérieur de laquelle se mélangent des bribes d'informations, des bribes d'incompréhension, des questions, des absences de réponses, et finalement aussi beaucoup de malentendus sur ce qui est dit et sur ce qui est arrivé.
Vous l'avez revue, cette conférence, au moment de l'écriture du roman ?
Mais j'ai passé des heures devant, et je dois dire que je l'ai regardée par hasard tout au début, parce qu'un ami d'amis m'en avait parlé, et que je ne l'avais jamais vue, et je la connaissais très mal, finalement, comme beaucoup de gens, hein, parce que c'est quand même une autre époque. Et donc, une fois que je l'ai regardée, j'ai pas tout de suite entendu le dérapage, la prononciation fautive du général de Gaulle. Et une fois que je l'ai entendu, je dois dire que je n'ai plus entendu que ça. Comme mon personnage le fait. C'est-à-dire que, en se focalisant sur ce velours, comme on dit, le reste disparaît, le reste se brouille. Et finalement, comme il va jouer avec cette petite sœur devant cet écran de télévision à produire des bruits, toute la conférence est devenue un bruit et... Oui, un ensemble de sons et de modulations sonores qui devient un jeu d'enfant, finalement.
On sent vraiment, Nathalie Azoulay, dans l'écriture de ce roman, que la question de l'enfance et de la vision d'un enfant, voire d'un bébé, est une piste que vous suivez très précisément, y compris dans l'élaboration de votre langue. Encore une fois, là, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que ça propose pour le lecteur ?
Sans doute une forme de chemin, d'initiation, de laboratoire, je ne sais pas très bien comment le nommer. Disons que c'est une position qui revient beaucoup dans mes romans, sans doute. Moi, je dois avoir quelque chose à faire avec cette position-là, toujours, malgré mon âge. Mais j'aime bien cette hauteur d'enfant qui permet de réinterroger et les événements et les idées communes. Et d'aller déplier l'indépliable, c'est-à-dire d'aller dans les coins et les recoins pour explorer d'une nouvelle manière ce qui a été dit, ce qui a été vécu et ce qui n'a pas été dit surtout.
Et alors au final, après l'écriture, après avoir passé tant de temps devant cette conférence, est-ce que vous savez ce qui a été dit en novembre 67 par le général de Gaulle et ce qui n'a pas été dit ?
Il a été dit plusieurs choses et je pense que cette conférence est d'une ambiguïté absolue. Je l'ai vu et revu en me disant bon bah alors finalement qu'est-ce qu'on en retient, et je n'arrive jamais à me fixer sur une position. Bon, on en retient une colère du général de Gaulle suite à la guerre des six jours, ça c'est très clair, une forme de ressentiment qu'il éprouve à l'égard d'Israël qui a déclaré la guerre mais qui n'avait pas le choix, donc qui n'a pu que la déclarer, et donc on entend cette colère du général qui règle un peu ses comptes avec ce pays duquel il était proche. Mais on entend aussi, et c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il a justifié par la suite, une forme d'admiration quand il dit « ce peuple sûr de lui-même, ce peuple d'élite sûr de lui-même est dominateur ». Il y a à la fois un compliment qui s'exprime, Mais c'est vrai que le terme de dominateur est un peu malheureux, puisqu'on sait que 20 ans plus tôt, il y a eu l'extermination. Donc cette conférence, elle dit à la fois un ressentiment, une information qui se formule différemment par rapport aux années précédentes, et elle dit aussi une peur qui se crée en France, de voir justement cette relation entre la France et Israël se ternir, s'abîmer, et sans doute aussi une forme d'accusation qui est jetée à ce moment-là et qui sidère ces personnages.
Le général parle sans notes, sans prompteur. Il sait qu'il apprend ses textes par cœur, s'enferme pendant des heures dans son bureau, répète inlassablement. Sa mémoire est phénoménale, comme sa taille. Entraîné depuis la petite enfance par un père professeur d'histoire et de latin. Il l'imagine tantôt oblongue, suspendu comme un astre à l'intérieur de son grand corps, tantôt y circulant comme un fluide. Peut-être même a-t-il un répétiteur, un homme de théâtre capable de le reprendre sur sa diction, son rythme, ses liaisons, pour qu'il s'exprime aussi parfaitement qu'un roi de France. Un chef d'État doit se hisser au-dessus de son peuple par les bâtiments qu'il fait construire, les médailles qu'il fait frapper et les réformes qu'il fait voter. Mais aussi par les discours qu'il déroule sans accroc devant les caméras de télévision, se dit-il, quand, l'instant d'après, il sursaute contre le flanc de sa mère. « Qu'est-ce qui te prend ?» demande-t-elle. Ils n'ont pas entendu. Ils ne peuvent pas ne pas avoir entendu, pense-t-il coup sur coup. Le général a fait un velours, dit-il d'une voix inaudible. Son père se retourne brusquement. Du haut de sa tête à ses bras, tout son corps fait siffler l'air. Sa main heurte la petite tasse de café, la renverse. Sa mère se précipite pour la ramasser, mais d'un geste, il lui signifie de rester où elle est. Le tapis, proteste-t-elle. Sur le motif vert, la substance brune et granuleuse s'écoule, puis s'absorbe en quelques secondes. Elle se rassoit, mais ses yeux ne quittent plus la tache de café. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demande-t-elle. « Le général a fait un velours. »« Quand on met un S là où il n'en a pas, ça s'appelle un velours, » explique-t-il. « Quand on met un T, il va à la plage, on dit que c'est un cuir. » Sa mère plisse les yeux en direction de la tache brune sur le tapis vert. Se félicite de n'avoir pas bougé, car les deux teintes se confondent à présent, puis répète mécaniquement les mots « velours » et « cuir », comme si elle les proférait pour la première fois. Pourquoi employer des mots de couture ? On dit « velours » parce que c'est plus doux que le cuir et que l'erreur de liaison la plus dure pour l'oreille, c'est le cuir. Elle le regarde sans comprendre. Il reprend. Un cuir, c'est mettre un T là où il n'y en a pas. On dit cuir parce qu'on écorche, on arrache la peau de la langue. Mais là, c'était un velours, ce qu'ils avaient été de tout temps.
Nathalie Azoulay, c'est Romain de Bec-de-Lièvre qui lit un extrait de votre roman Les Spectateurs. Et on plonge vraiment dans ce que vous décriviez tout à l'heure, à savoir le brouillard, la hauteur d'enfant, la manière dont tous les regards parlent en même temps presque et font se croiser les motifs du tapis, de la langue. Et surtout, je trouve, on plonge dans la manière que vous avez de décrire la matière de la langue. En lisant ces passages-là, je me suis vraiment souvenue de votre précédent roman où vous décriviez comment Racine, enfant, rentre dans la langue française, rentre dans l'amour de la langue française. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de très puissant dans la manière dont vous réussissez à rendre ce que c'est presque pour un enfant de découvrir la puissance du langage. Qu'est-ce qui se joue pour vous, là, je ne sais pas, en tant que romancière ou en tant qu'être humain qui parle ?
Je pense que dans les deux cas, il y a en effet pas mal de similarités et vous désignez là quelque chose qui me tient très à cœur. Mais dans le cas de ce roman-là, ce personnage d'enfant qui découvre la langue et qui l'enseigne à ses parents, il a une supériorité sur ses parents, il parle mieux la langue française que ses parents ne la parlent parce qu'il a une mission. Parce qu'il est là, comme Racine avait une mission, qui était de devenir le plus grand poète du royaume de France. Mais là, c'est une autre mission, c'est d'intégrer cette famille d'exilés. Donc, c'est une mission qui est tacite, qui n'est pas du tout formulée de manière aussi explicite, mais l'injonction est très impérieuse, très forte. Il la sent à toutes les minutes de sa vie. Et là, devant cet écran de télévision, dans le flot des paroles d'un homme qui maîtrise la langue française comme personne, hein, le général de Gaulle, qui la connaît vraiment très très bien et qui la manie très très bien, cet enfant, non seulement a une supériorité sur ses parents, mais il a une supériorité sur le général de Gaulle, puisqu'il il met en exergue son erreur. Et donc c'était très important pour moi de montrer comment cet enfant fait tous ses efforts pour apprendre cette langue, pour en connaître le lexique, pour en connaître la syntaxe, et pour l'enseigner à ses parents, puisqu'il l'enseigne à plusieurs reprises à ses parents. Et comment finalement cette mission qui lui revient va être malmenée, va être mise à mal par l'événement historique auquel il assiste, puisqu'il pensait être la solution au problème de ses parents, c'est-à-dire être celui par qui se passerait la meilleure intégration possible. Et en fait, devant cette conférence, ce qu'il entend, c'est que peut-être l'exil n'est pas fini, et que peut-être il ne va pas pouvoir rester français, rester en France avec ses parents, et que le problème n'est pas réglé finalement. Donc cette mission énorme et qu'il accueille à bras ouverts et dont il est content d'être le porteur est ici une douleur déchirante pour lui. Et pourtant, comme l'extrait l'a montré, comme d'autres moments du livre le montrent, il continue, il s'acharne, il ne va pas baisser les bras et finalement sa vocation va se consolider, va se construire. Mais c'est vrai que le matériau de la langue est le premier matériau par lequel il veut exceller en France.
Est-ce que vous le visualisez, ce matériau-là ? Moi, j'avais vraiment trouvé dans Titus n'aimait pas Bérénice, autant que dans ce livre-là, une manière de rendre physique ou organique ce que c'est que le langage.
C'est vrai que dans ce roman-là, je crois que, sans m'en rendre bien compte, c'est maintenant que je l'entends, j'ai travaillé beaucoup sur cette texture de la langue, et c'est vrai que je l'ai dépliée dans ce salon sur un tapis au milieu d'autres tissus et qu'elle est devenue une matière textile. Et c'est vrai que le textile est très 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 présent dans ce livre. Et sans doute, on peut passer par le tissu du texte pour arriver à déployer cette métaphore. Mais c'est vrai que je l'ai vécu sur ce mode-là, dans ce roman-là. Alors, c'est pas tout le temps de la même manière. Et quand j'avais écrit Titus n'aimait pas Bérénice, elle avait d'autres, ça prenait d'autres formes. Il y avait la métaphore du jardin, la métaphore de la terre, voilà, de ces matières organiques qui étaient plus primitives. Ici, c'est plus élaboré. On est dans un contexte de couture qui est très présent. Et sans doute, j'ai besoin de changer aussi de terrain pour parler de cette affaire-là.
Et quand vous écrivez, vous avez quoi comme rapport avec la langue française ? Vous avez l'impression, d'avancer dans... Hier, on parlait du silence auquel il faut aller arracher les mots. Vous, ça se passe comment ? Elle passe comment en vous, cette langue-là ?
C'est une question difficile. Moi, j'ai besoin de passer par une matière très pâteuse. C'est-à-dire que quand je commence à écrire, ma matière est brute, très épaisse, très sommaire, et au fur et à mesure, je la travaille, je l'affine. Et finalement, j'ai un matériau qui est à la fois brut et un peu inconnu au départ, entre mes mains. Et je sais que de roman en roman, même si évidemment on retrouve des similitudes, j'essaye de passer par de nouveaux chemins.
Quand vous dites inconnu, c'est tant du point de vue de la langue que de l'histoire que vous vous apprêtez à raconter.
Oui, c'est vrai que mon histoire, je ne l'ai pas connue tout de suite. Je l'ai découverte et construite au fur et à mesure. J'avais au départ pour objectif de travailler beaucoup sur la conférence et sur un contexte politique. Et finalement, ce contexte s'est amenuisé. Et la conférence aussi, qui n'est restée qu'un point de départ narratif. Et autre chose s'est mis en place et s'est déployé. Donc c'est vrai qu'il y a une part d'inconnu qui me saisit toujours, et tant mieux, je peux pas travailler différemment. Et pour la langue, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai une ambition qui change à chaque livre. Dans le livre précédent, j'avais une ambition qui était plus racinienne, qui était plus pure, plus dépouillée. Là, j'ai une matière qui est plus épaissie, qui est plus élaborée, plus chatoyante, parce que je me suis mise dans un contexte, plus complexe.
Vous savez, les gens sont blessés, effectivement. C'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais vous l'avez dit vous-même, il y a des variations dans ces blessures, des variantes.
Ça ne
m'intéressait pas de placer le sionisme au banc des accusés.
Pas du tout.
Pour cela, je n'aurais pas écrit de roman. Peut-être que j'aurais écrit un article. Mais je n'aurais pas écrit un roman.
Dans
ces gens
tellement dissemblables, l'oncle Moïse, la mère, le père, et l'oncle Sicurel,
et
Nonna Fortuné.
Et comme nous l'avons déjà dit,
ce n'est pas le sentiment qu'ils ont d'un endroit, d'être au bon endroit. Vous savez, une des choses qui a caractérisé cette communauté levantine en Égypte, c'est qu'ils n'ont jamais eu de racines. Jamais, ils n'ont jamais eu de racines. Vous savez, si l'exil est une maladie chronique, eux étaient des malades chroniques. Parce que ça a toujours été des gens qui étaient en exil, qui émigraient.
Mais
ce qui est vrai, c'est que ces gens ont toujours eu une extrême sensibilité.
Et le pgi'a, chouv, bakvod,
une blessure de l'honneur, j'y reviens, et ce qu'on appelle en anglais la dignité, leur dignité.
C'est la voix de Ronit Matalon dans une archive de 2012 au micro de Kathleen Evin sur France Inter, auteure israélienne décédée tout récemment, en décembre dernier. Elle parle de la maladie chronique de l'exil, Nathalie Azoulay, et vous, vous décrivez comment, du point de départ de cette conférence de novembre 1967, finalement, vous vous mettez à déployer d'autres choses, d'autres thématiques, dont il me semble la question de l'exil. Alors à la fois à partir de cette famille regroupée autour de l'enfant et de la petite sœur et du téléviseur, mais aussi d'une autre famille qui est celle de Maria et Pepito. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui était impérieux dans l'idée de travailler cette question de l'exil?
C'était à la fois de l'interroger du point de vue de son l'avènement, c'est-à-dire l'exil est arrivé, il est advenu une première fois dans cette famille, il peut réarriver, il peut recommencer, c'est ce dont l'enfant se rend compte devant ce téléviseur. Et puis, il n'est pas unique, donc il partage cette expérience de l'exil avec cette autre famille qui habite le même immeuble et qui est une famille portugaise, qui est une famille avec une mère célibataire, enfin une mère qui n'est plus avec son mari, et un enfant unique. Et c'est vrai qu'à la fois, ils ont ensemble beaucoup d'affects communs et beaucoup de différences. Et sans doute, le petit Pepito, par rapport au personnage principal, a-t-il moins d'injonctions sur ses épaules que l'enfant dont il est question principalement. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Ronit Matalon, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire avec des récidives constantes. Et en fait, ce dont l'enfant prend conscience devant la conférence, c'est que la récidive peut arriver, voilà. Et donc, on n'en a jamais terminé.
À la fois la récidive de l'exil concret, mais aussi la récidive de la blessure, puisque ce que dit aussi Ronit Matalon, c'est que les blessures sont diverses, elles interviennent diversement dans le corps et l'esprit des personnes exilées, et elles peuvent se taire et se réveiller. On entend aussi dans les craintes de cet enfant, la crainte de repartir, mais la crainte d'avoir de nouveau mal ou que ses parents aient de nouveau mal.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'il veut les interroger et qu'il veut savoir comment ça s'est passé la première fois. Et en fait, on ne lui a jamais raconté de manière claire et nette. Donc il va à la pêche aux informations qu'il n'obtient pas. Vraiment, je crois que c'est très important d'insister là-dessus. Il ne les obtient pas, sans doute parce que la douleur est tellement forte qu'elle ne peut pas verbaliser ces informations. Et c'est au détour d'une confidence qui ne lui est pas adressée qu'il va apprendre des choses sur ce premier exil. Et en fait, naïvement, cet enfant, à la fois il veut savoir ce qui est arrivé à ses parents, et qui le concerne évidemment au premier chef, mais il veut aussi savoir comment ça se passe pour éventuellement prévoir comment faire pour la prochaine fois. Donc comme si un premier exil pouvait préparer un second et, je dirais, l'armer d'une certaine manière et le rendre moins difficile. Évidemment, c'est tout à fait naïf. Et en fait, l'ironie du sort voudra que cette deuxième famille, donc d'exilés, qui est la famille portugaise, sera amenée à partir plus vite que lui. Mais c'est vrai que, du point de vue de l'exil, cet enfant, il a, je dirais, deux armes. Il a la valise dans laquelle il veut savoir ce qu'on met, comment on le met, pour éventuellement faire la sienne au moment venu. Et il y a la langue, qui ne pèse rien, qui est facile à transporter. Et sans doute, est-ce là aussi une des raisons principales pour lesquelles il travaille tellement la langue. C'est que c'est son matériau, son passeport, et cette manière de garder avec lui quelque chose d'une patrie qui pourrait être perdue.
Vous dites le prénom de ce petit garçon qui vit dans le même immeuble, qui est ami avec l'enfant principal, dites-vous, cet enfant principal qui n'a pas de prénom, de même que ses parents n'ont pas de prénom, que sa petite sœur n'a pas de prénom, alors que Maria et son fils Pepito en ont. On entend là quelque chose qui résonne aussi avec le titre de votre roman, Nathalie Azoulay, Les spectateurs. C'est une espèce de masse informe qui n'a pas de prénom non plus, qui n'a pas d'individualité, c'est l'inverse de ça. Qu'est-ce qui se joue pour vous là-dedans, dans l'anonymat ?
J'avais envie de construire cette famille, en effet, d'une manière un peu rampante, dans ce salon, un peu indifférencié. Pourtant, il y a quand même quatre personnages très différents. Mais c'est vrai que c'était, ils sont venus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que j'ai d'abord un matériau assez brut, et cette famille s'est imposée à moi comme une masse, d'abord un peu uniforme et indifférenciée. Après, j'ai travaillé dedans pour travailler les quatre personnages. Mais je voulais qu'il reste cette masse un petit peu anonyme, depuis laquelle on regarde, en fait. Donc, construire ce point de vue massif, non nominatif, pour en faire sans doute un point de vue, je dirais, aussi universel que possible, qui puisse accueillir tous les autres points de vue et tous les autres regards, et depuis lesquels, donc, les autres ont des noms. C'est-à-dire, en effet, ses voisins, Pepito et Maria, les acteurs de cinéma, les gens qui passent à la télévision, voilà, tout le reste est nommé, sauf eux. Parce qu'ils sont dans un angle mort aussi, parce que sans doute j'ai du mal à les regarder moi-même. Et plusieurs fois je me suis dit, bon, mais non, je vais leur donner des prénoms, je vais leur donner des noms, parce que ça va être difficile pour le lecteur. Et je n'y arrivais pas. Et j'en parlais avec mon éditeur, et c'est lui qui m'a dit, mais autorisez-vous à rester dans cet anonymat, parce que sans doute est-il décisif finalement. Et il avait raison, parce que la force venait de là pour moi, et l'intérêt venait de là. Donc c'est vrai que... parfois, il faut un tout petit peu suivre et revenir sur la phrase pour savoir de qui on parle. Mais c'est toujours très logique et j'ai fait vraiment très attention pour qu'on ne soit pas perdu. Mais il était très important pour moi que ces personnages restent dans cette ombre.
Important et décisif, est-ce que c'est pas aussi parce que ça signe un certain rapport à l'histoire, avec un grand H, et à la manière dont se déroulent les grands événements politiques ? Est-ce qu'ils ne sont pas précisément dans un angle sans nom, un angle pas vu, un angle qui est la masse, une forme de masse populaire, sans qui parfois se déroule l'histoire ?
Oui, certainement, et sans doute aussi parce qu'au moment où survient cette conférence, et donc ce choc, un tremblement de l'identité advient. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, sans doute, ne savent plus très bien qui ils sont.
Et qui ils enfantent.
Et qui ils enfantent, et d'où ils viennent, et où ils iront, et s'ils peuvent rester, et si on va les considérer pour qu'ils puissent rester. Donc il y a un tremblement de l'identité qui, sans doute, passe aussi par cet effacement du nom.
Ça fait combien d'années que vous travaillez ici ?
J'ai commencé à 16 ans, j'en ai viens d'en avoir 59 il y a deux jours, donc 43 ans.
Et puis l'âge de 16 ans va partir bientôt en retraite l'année prochaine. Et alors on a fabriqué des drapeaux français, n'est-ce pas, Jenny ?
Énormément, et on en coupe toujours, là.
Est-ce que vous sauriez dire combien de drapeaux français vous avez fabriqués dans votre carrière ?
Oh non. Je peux dire des millions, oui.
Et alors Jenny a cette spécificité d'avoir connu toute l'évolution technologique. C'est-à-dire qu'elle est rentrée en cousant...
En bas jusqu'en haut.
De en bas jusqu'en haut.
Mais ici, je viens d'en couper 15, 4 mètres sur 6 mètres, des grands. Hein. Là, je viens de les finir. Sur la table là, sur la table là-bas.
Est-ce qu'il y a une fierté à fabriquer des drapeaux français ?
Ah oui, oui, c'est mon pays quand même. C'est mon pays.
Vous le trouvez beau ce drapeau ?
Ah oui. J'aime bien mon pays, j'aime bien mon drapeau moi.
Est-ce qu'il y a d'autres drapeaux que vous aimez ? Que vous fabriquez ici ?
J'aime bien le drapeau anglais, américain. Américain, j'aime bien, ça c'est sûr.
Et d'habitude, on fait plus de drapeaux européens que de drapeaux français.
Mais en ce moment, il y a plus de drapeaux français ?
Oui, oui, bien sûr.
Comme mon bicentenaire, on en a fait beaucoup. On a travaillé des heures et tard pour livrer les clients. Hein.
Pour le bicentenaire de la Révolution ?
Oui, et aussi en 98 pour la Coupe du Monde. Ah, oui. Énormément. Il y a des gens qui volaient les drapeaux qu'ils mettaient en mairie. Le lendemain, on était obligés de les refaire. Il y avait une foule dehors qui venait acheter des drapeaux. Et c'était à la chaîne, là. Hein.
On a beaucoup vendu également à la mort du général de Gaulle, les gens faisaient la queue.
À la mort du général de Gaulle.
Ah oui, la mort du général de Gaulle, oui, également. Également pour en américain, quand les tours se sont effondrées, là, il y a eu une demande instantanée aussi. Et on a expédié des rouleaux de drapeaux directement aux États-Unis. Ils ont fini sur place. On n'arrivait plus à le faire, oui. Souvenez,
ouais. Est-ce que vous avez des drapeaux français chez vous ?
J'en ai qu'un, 80-120, mais il faut que je cherche dans le bureau.
80-120, c'est les dimensions ?
Oui, c'est la dimension.
Bah, bonne journée.
Merci.
Bon travail.
Merci, monsieur.
Merci, Denis.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
La voix qu'on entendait avant, celle de Dalida, c'est celle de Janine Couturière qui fabrique des drapeaux. Dans votre roman, Nathalie Azoulay, la couturière, c'est le personnage de Maria dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette femme ?
Maria, c'est donc cette voisine portugaise qui habite dans le même immeuble que la famille principale et qui entretient avec la mère de la famille une relation très proche puisqu'elle lui confectionne des robes d'après les modèles hollywoodiens que cette mère lui apporte. Qui arrive donc avec ses revues de cinéma américain et qui lui dit « Je voudrais avoir la même robe que Lana Turner dans ce film » ou bien de Rita Hayworth dans Gilda ou voilà de plusieurs autres actrices. Et donc elle soumet Maria à cette épreuve qui est à chaque fois quand même un défi parce que ce sont des robes élaborées qui sont voilà luxuriantes, glamour, et donc cette femme veut avoir ces robes là pour aller faire ses courses et à l'école et à l'hôpital. Donc il y a cette espèce de dénivelé comme ça qui surprend toujours Maria la couturière, mais qui obtempère toujours et qui lui fait les robes qu'elle attend, et en même temps qui est souvent débordée par ses commandes et qui d'ailleurs finira par avoir des problèmes de santé et qui ne sent, voilà, des problèmes de santé suite à trop de fatigue. Donc elles ont une relation qui va au-delà même de la couturière et de la couture. Et à un moment donné, donc la mère de famille va lui dire mais vous n'êtes pas ma couturière, vous êtes ma costumière. Et donc il y a là une nuance très importante, puisque la costumière, c'est celle qui faisait donc et qui fait toujours des costumes pour une actrice dans un certain rôle. C'est-à-dire que le vêtement est dramatisé et il est caractérisé, et ce n'est pas n'importe quelle robe, c'est la robe d'un personnage qui a telle psychologie et qui va traverser telle histoire. Et donc, évidemment, dans cette interaction entre la mère et la couturière, cette interaction va devenir celle d'une actrice et de sa costumière, c'est-à-dire hautement dramatique, qui va évidemment être nourrie de plein de confidences, puisque les costumières avaient ce privilège de connaître les actrices et les plus grandes actrices sous toutes les coutures, c'est le cas de le dire, et dans tous leurs défauts physiques. Et elles avaient pour mission de camoufler ces défauts. Donc, s'il y avait un centimètre de trop, un kilo de trop, un kilo de moins, tel défaut anatomique, elles étaient là pour camoufler et pour que les actrices apparaissent toujours sous leurs meilleurs jours. Donc, finalement, entre cette mère de famille et Maria, la relation est hyper intime. Elle est très, très intime. C'est elle qui la connaît le mieux. Et c'est à elle qu'elle va adresser sa confidence. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de travailler sur la figure de la costumière, mais aussi sur la confidente, de la même façon qu'il y a des confidents dans le théâtre classique, c'est-à-dire qu'elle va lui faire part du plus grand secret qu'elle porte et d'un secret coupable. Et ça m'intéressait de, voilà, que cette pauvre couturière exilée, elle aussi, porte autant de secrets.
Et qu'elle soit en contact, comme ça, par hasard, ou qu'elle le cherche avec des vérités de cette femme, en effet, à travers les confidences, à travers cette relation de corps, de tissu, vont se glisser des récits qui, par ailleurs, n'existent pas ou ne sont pas racontés. Et puis, la relation entre ces deux femmes engendre une autre relation qui est celle de Pepito et l'enfant, l'autre enfant, l'enfant principal, appelons-le comme ça, Nathalie Azoulay. Comment on peut qualifier cette relation que vous brouillez aussi, où vous mettez du trouble ?
Elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très affectueuse et très proche. C'est une véritable amitié que ces deux enfants ont. Mais il y a aussi un rapport de domination, de la même façon qu'il y a un rapport de domination entre Maria et la mère de l'enfant. Et c'est vrai que mon personnage principal domine Pepito d'une manière très, très affirmée. Il est supérieur à lui, il se sent supérieur à lui dans toutes les missions qui lui incombent. Il maîtrise mieux la langue française que lui, il est meilleur élève à l'école, il est plus cultivé que lui et il parle et comprend d'autres langues que lui. Donc finalement, il a cette supériorité avec laquelle il va jouer et avec laquelle il va aussi exercer un certain sadisme, hein, je ne peux pas le nier, notamment à travers un exercice physique qu'il va lui demander de faire régulièrement, à savoir de devenir, de faire l'équilibre sur les mains dans le parc qui est à côté de leur immeuble. Et ce pauvre Pepito n'y arrive pas, il est tout le temps pris par la peur, par l'incapacité à lever les jambes, etc. Et mon personnage principal va le soumettre à la question, hein, parce qu'il va absolument le forcer à parvenir à faire cette figure avec lui. Et il va y avoir, oui, à ce moment-là, un rapport un peu sadique entre les deux. Et donc, pour moi, c'était une façon de raconter ce que c'est que l'amitié, à hauteur d'enfant, ou pas forcément d'ailleurs à hauteur d'enfant, c'est-à-dire cette relation qui est toujours mitigée, en fait, où il y a à la fois un affect, une attirance, une...
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas complètement dénué de désir entre ces deux petits garçons.
Non, il y a une véritable camaraderie, hein, une véritable amitié, mais il n'empêche qu'elle est traversée de rivalité, de comparaison, de volonté de dominer. Et malheureusement, j'ai le sentiment que beaucoup de relations humaines suivent ce même régime, y compris les relations les plus affectueuses.
Et les plus proches, puisqu'il y a une autre relation dans cette triangulation entre enfants, qui est celle avec la petite sœur, la toute nouvelle, la petite née, qui tient une place très particulière dans votre roman Les Spectateurs. D'une part parce qu'elle arrive, d'autre part parce que une malformation de son corps fait qu'on la regarde un peu plus. Alors elle est le transport de quoi, cette petite fille, pour vous, Nathalie Azoulay ?
Elle était d'abord, d'une manière narrative, je dirais littéraire, une manière pour moi d'ancrer le récit au sol. Je voulais absolument qu'on reste vraiment sur ce tapis devant ce téléviseur et qu'il y ait une forme d'immobilité et de sidération très physique de toute la famille qui s'incarnait dans le corps de cette petite sœur qui ne peut pas bouger. Donc ça a été d'abord ça, mon impulsion, je dirais. Ensuite,
elle ne peut pas bouger parce qu'elle ne peut pas physiquement à ce moment-là.
Elle ne peut pas parce qu'elle a un problème de hanche qui fait qu'elle ne peut pas se tenir debout. Donc elle est vraiment vissée au sol et elle ne peut que ramper. Donc il y avait pour moi il y avait beaucoup d'intérêt à traiter cette figure-là et ce motif-là. Et ensuite la faiblesse dont elle est victime, donc ce défaut, cette malformation, va permettre à la relation grand frère petite sœur de se développer, d'aller dans le sens de toujours plus de protection, d'affection, mais aussi d'ambivalence, hein, parce qu'à un moment donné, cette relation et cette affection se retournent et est traversée par de l'animosité, par de l'hostilité. Mais il n'empêche que ce grand frère a pour mission de porter cette petite sœur et il veut l'aider à guérir, il veut l'aider à traverser toutes les épreuves physiques qui l'attendent pour qu'elle se tienne finalement debout. Donc il y a aussi, je dirais, un moteur plein d'espoir dans cette relation entre le grand frère et la petite sœur au début handicapée.
Et elle aussi porte une question, cette petite sœur, parce que elle est potentiellement justement le renouveau total. C'est la petite qui arrive sur le sol français, c'est elle qui initie une sorte de nouvelle période dans la vie. Et en fait, c'est celle qui a la première vie boiteuse de manière la plus visible. Et tout le monde s'interroge pour savoir comment ça se fait, elle qui devait, entre guillemets, être parfaitement indemne. En fait, elle est tout le non-dit de l'exil.
Absolument. Et le petit garçon trouve très injuste que ce soit sa sœur et pas lui qui porte cette malformation et ce handicap. Parce qu'il, voilà, normalement et logiquement, il aurait dû être le porteur de ce traumatisme, et en fait, c'est comme si ça avait sauté pas une génération, parce qu'ils sont de la même génération, mais il y a quand même pas mal d'années d'écart entre les deux. Et donc, c'est la petite sœur qui hérite de ce handicap et de ce traumatisme. Et c'est vrai que ça le révolte, et d'autant plus, enfin, c'est une raison pour lui d'autant plus forte de l'aider à guérir, pour réparer cette forme d'injustice. Et c'est vrai que le corps de cette petite sœur a été aurait dû être le corps parfait, et qu'il est en fait le corps entamé, entravé.
Est-ce que ce n'est pas aussi ce corps-là qui permet que la parole advienne ?
Mais c'est vrai que si une relation de parole se développe de façon harmonieuse, pleine, nourricière dans ce roman, c'est entre le frère et la sœur. Une fois qu'elle va subir des soins, il va être là pour elle tout le temps, beaucoup plus que les parents. Il va l'informer, il va lui enseigner d'autres langues, en particulier la langue allemande. Et donc il va la nourrir de paroles et faire qu'avec elle, un front commun se constitue contre le front des parents, pour aller vers l'avenir. Donc c'est vrai que cette relation, elle est, je dirais, plus verbalisée que les autres, plus verbalisante que les autres, au sens où elle est plus parlée que les autres. Il y a moins de non-dits, il y a moins de malentendus, et elle est plus prometteuse. Elle va vraiment, oui, vers une réparation.
Characters in this story might be fictitious, and any resemblance to you or me might be purely coincidental.
This must be at long last our formal introduction. Until now, we've only met in passing.
That's how you met me, in passing.
Yes. Eve, this is an old friend of Mr. DeWitt's mother, Miss Caswell, Miss Harrington.
Miss Caswell, how do you do?
Addison, I've been wanting you to meet Eve for the longest time.
It could only have been your natural timidity that kept you from mentioning it.
You've heard of her great interest in the theatre.
Let's forget sex.
Okay. Agreed. May be a bit difficult in the beginning, but it can be worked out.
Oh, it'll be grand.
Save lots of time.
And confusion.
We're going to concentrate on work.
I've got very definite ideas.
Like what?
There's never been anybody in particular. Nobody special.
Plenty wanted to, I'll bet.
What do you think?
But you've been waiting for that one guy to come along?
I got very definite ideas.
What's he gonna be like, this one guy?
Vous avez reconnu Nathalie Azoulay dans un premier temps, Put the Blame on Mame, extrait du film Gilda, pour évoquer la figure de Rita Hayworth, et puis ensuite un montage qui avait été réalisé par Somanina pour l'émission Plan Large d'Antoine Guillot. L'univers d'Hollywood, le corps de ces actrices dont on parlait tout à l'heure, les robes, les photos de ces actrices, les photos tirées des films, ont une part extrêmement importante dans votre écriture et elles interviennent comme une sorte de doublure dans le tissu. C'est vraiment l'imitation de la vie. C'est ce qui vient comme un filtre à la place d'autres choses pour notamment la figure de la mère. Quelle place ça a exactement, ce cinéma-là, dans l'écriture de ce roman, Les Spectateurs ?
C'est une place centrale. C'était pour moi une manière de raconter comment on se drape dans des rêves, dans des fantasmes et dans des écrans pour ne pas affronter l'histoire, pour l'oublier, pour l'éloigner. Et donc cette mère qui est tellement hantée par le cinéma hollywoodien et par le glamour et des actrices hollywoodiennes est en fait, depuis sa jeunesse, drapée dans des fantasmes qui l'éloignent de sa réalité et qui la protègent de sa réalité. Donc ça a été pour moi une manière de raconter une forme de déni, de dénégation, de refuge contre l'histoire.
En même temps, vous passez pas par n'importe quel déni ou par n'importe quel écran, ça a une certaine valeur, ces femmes-là, l'utilisation de leur corps, de leur pensée, de leur parole. Pourquoi est-ce que c'est ça que vous avez choisi comme l'opération de déni pour le personnage de la mère?
Parce que Hollywood représentait, dans ces années-là, et toujours, un rêve d'Occident absolu. C'est-à-dire que pour cette famille et cette femme en particulier qui vient d'Orient, Hollywood, c'était l'Occident suprême, c'était le point de terminus auquel il fallait aspirer. Et donc, ce glamour scintillant, pailleté, lamé, qui se drape dans des étoffes toutes plus précieuses et plus belles les unes que les autres, était une manière de fabriquer un soleil couchant mais radieux et formidable. Donc, pour moi, Hollywood, c'était à la fois ce rêve d'Occident, c'était cette patrie alternative qui n'est qu'une patrie de papier ou de tissu ou de film, de pellicule, mais qui est sans doute plus forte que toute forme de patrie réelle parce qu'elle est inattaquable, parce qu'on ne peut pas en être chassé, parce que les films sont éternels. Et donc, à ces patries où on peut être menacé, le pays natal, le pays d'asile, le pays d'accueil, eh bien, il y a des patries alternatives qui sont plus fortes et plus prometteuses et plus réconfortantes.
Et la manière dont le rêve hollywoodien vit dans le corps et la tête de cette femme-là, ça agit presque comme des lunettes déformantes, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas un homme arriver dans l'hôpital, elle voit Robert Taylor, elle ne voit pas une femme, elle voit d'autres actrices, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est, en effet, ne pas voir. Ne pas voir, c'est sa manière de se défendre. Alors elle se défend de quoi ? De sa propre souffrance ?
Oui, elle se défend de ses propres souffrances, puisque tous les films qui la hantent tellement, et les personnages en particulier auxquels elle s'attache, les actrices auxquelles elle s'attache, sont tous situés dans l'année 46, que ce soit Gilda ou Lana Turner dans Le Facteur sonne toujours deux fois, ou Jean Turner dans Péché mortel. 46, qui n'est pas l'année de la sortie de ses films, mais en tout cas l'année à laquelle elle les a vus, elle, dans son Orient natal. Et 46, pour elle, comme elle le dit au début du roman, c'est l'année de son mariage. Donc c'est le moment où elle change d'étape dans la vie, où elle devient une femme, et après une mère. Et c'est à ce moment-là que tous les traumatismes et tous les déchirements adviennent dans sa vie. Donc évidemment, c'est à ce moment-là que se mettent en place le plus favorablement tous les écrans et toutes les draperies et tous les costumes pour emballer le malheur, je dirais. Donc évidemment, ça lui permet de passer les épreuves d'une manière amortie, d'une manière détournée, et même quand elle va à l'hôpital, de prendre son médecin pour Robert Taylor, c'est beaucoup plus facile et plus acceptable que s'il avait un vrai nom de médecin français dans un hôpital français.
Donc, et en même temps, c'est une métaphore parfaite pour dire le mécanisme des costumes que doit endosser la femme. Vous disiez se marier, premier costume, c'est la mariée de l'homme. Être mère, deuxième costume, c'est la mère de l'enfant. Ça dit aussi quelque chose du regard que vous portez là-dessus, Nathalie Azoulay.
Oui, ça dit aussi sa manière à elle d'être toujours aussi dans une séduction effrénée. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas les costumes des actrices les moins séduisantes. Hein. Elle va chercher au top du top de la star américaine et la plus lascive qui soit. Donc elle veut déployer sur son monde et sa réalité comme ça un costume de séduction permanent qui est d'ailleurs très mal jugé par sa couturière Maria, hein, qui la tense régulièrement et qui veut la ramener dans le droit chemin, mais en vain. Et donc d'être dans cette séduction effrénée et constante, c'est une façon pour elle de n'être dans aucune séduction finalement, et voilà, d'être dans une sorte de nuage, de brouillage permanent, qui en effet fait qu'elle échappe à tous ses rôles, parce que c'est quand même une mère assez déficiente que cette mère.
Elle échappe aussi à son rôle, en tout cas c'est assez brouillé, ça aussi la relation qu'elle entretient avec son mari, il a une place un peu particulière, cet homme dans la masse familiale que vous avez tenté de dépeindre, il a quelle place ?
Il a une place, je dirais, il a un mauvais rôle, c'est-à-dire qu'il a un rôle de personnage taciturne, de personnage colérique, de personnage qui a vécu des souffrances mais qui n'en parle pas et qui se replie et qui n'est pas dans une interaction heureuse avec les autres membres de la famille. Et c'est vrai que face à lui, elle est à la fois dans une relation de servitude, hein, elle est à ses petits soins, et en même temps de distance absolue, puisqu'elle garde un secret qui est un secret d'amour, qui échappe à cet homme et qui est contre cet homme, enfin qui est un secret. Oui, je dirais un peu hostile à son mari. Donc finalement, il y a à la fois une relation comme ça très conventionnelle, mais qui est toute travaillée par le non-dit, par le silence et par une absence de désir certainement.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu à tout ce que j'aime. Même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu à tout ce qui s'aime. Même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie, la guerre.
Ma chérie.
Elle m'appelle... Marc.
D'un ton un peu sec.
Mon grand, quand c'est affectueux. Elle dit mon grand. Jalil, sinon, la plupart du temps, ou Jalilou.
Elle dit Mijita. Ça vient de mi hija, ce qui veut dire ma fille. Et donc, hijita, ma petite fille.
Anne et ma chérie.
Moi, ma mère, elle m'appelle mamie. Elle dit mamie chérie. Des fois, j'avais honte, en fait, parce que ça fait mémé. Sauf que mamie, c'est mamie. Mon amoureuse, ma douce mamie.
Et même au téléphone, en fait, c'est Marc, mais assez dur, en fait. Allô, Marc, c'est moi. C'est quelqu'un de fort, ouais. Assez autoritaire, assez tranchante.
Le confidence. Elle me dit toujours... Tapate bien. Et ça veut dire couvre-toi bien. Et c'est quelque chose qu'elle me dit extrêmement souvent, par exemple, à chaque fin de conversation, où elle me dit aussi toujours, bon, on reste en contact.
Ma mère dit toujours ça.
on reste en contact. Il y a cette nécessité de que ça coupera pas, quoi. Et ça, elle le dit en français. C'est assez marrant.
Elle dit bon, on s'appelle pour un oui ou pour un non. Dans sa bouche, c'est positif, quoi. C'est t'as quelque chose de pas important à me dire, tu m'appelles pour me le dire, bien sûr.
Quand j'étais malade, elle me disait des mots en arabe. Elle disait nahbibesk. C'est mon amour, quoi. Waliya. Mais j'en ai parlé à des gens qui parlent arabe et ils ne connaissent pas. Mais elle disait waliya, waliya.
C'est un extrait d'un reportage de Judith Soussan sur la manière dont les enfants devenus grands se souviennent de leur mère. Nathalie Azoulay, on a parlé du personnage de la mère, de la manière dont vous dépeignez la maternité. Vous en faites un mystère pour ce petit garçon. Vous en faites une sorte de personnage difficile à lire comme le reste de la situation politique. Est-ce que l'un des enjeux des spectateurs, c'est aussi le spectateur qu'est le petit garçon face à sa maman ?
Oui, absolument. C'est une mère qui lui échappe. C'est une mère de laquelle il veut sans cesse s'approcher, contre laquelle il veut se blottir, avec laquelle il veut être, tout simplement, et qui a toujours autre chose à faire, que ce soit d'aller chez Maria pour se faire faire sa énième robe, ou d'aller frotter le tapis parce qu'il y a une tache de café, ou d'aller préparer le repas, ou d'aller chercher une revue de cinéma pour montrer le visage d'un acteur américain, ou bien d'autres choses. C'est une mère qui lui échappe, qui n'est pas là, qui ne sent pas, et qui en plus se drape dans des costumes qui renvoient à d'autres personnages qu'elle même. Donc voilà, elle échappe d'autant plus. Donc c'est vrai qu'il y a de la part de ce petit garçon une forme de frustration affective très très forte et qui, si on se place sur le terrain du langage, se traduit aussi dans le roman par la manière dont il ne trouve pas les mots pour appeler ses parents. Alors là, on avait l'inverse, c'est-à-dire comment les mères nomment leurs enfants. Mais dans le roman, c'est dans l'autre sens. Et il a des mots qui sont des mots un peu prothétiques, des mots qui sont insatisfaisants, qui sont froids. Il est dit à un moment que ce sont comme des couteaux même. Et parce que justement, la langue maternelle est une chose dans le livre qui est aussi brouillée que le reste. C'est-à-dire que dans cet Orient dont ils viennent, le français semble être la langue qui a opéré. Mais c'était sans doute un français différent, puisque c'était un français levantin, oriental, sans doute traversé de plein d'autres influences. Une fois en France, il y a cette langue qui s'impose, qui est le français de France, et que l'enfant tâche d'apprendre, mais qui n'est pas exactement la même chose que la langue maternelle. Et donc la langue maternelle est cette chose qui s'étire entre deux continents, qui passe à travers une mer. Et pour ça, j'étais très influencée par une lecture que j'avais faite de Jacques Derrida, où il parle de cette question du français de France qui n'est pas le même que le français qu'on pratiquait dans les colonies. Et finalement, la langue maternelle, on ne sait pas très bien de quoi elle est faite. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas appeler ses parents. C'est parce que normalement, un enfant nomme ses parents dans la langue maternelle qui est tenue et qui est identifiée. Or là, elle est non identifiable, elle est incertaine et elle échappe aussi.
Et
c'est très douloureux. Oui, et c'est très douloureux pour cet enfant de sentir cette distance ou disons ce matériau un peu troué qu'est cette langue. D'où aussi cet acharnement qu'il a à apprendre les langues et à les parfaire.
Merci beaucoup Nathalie Azoulay. Le titre de votre roman, Les Spectateurs, est paru aux éditions POL. Par les temps qui courent, regardez-vous la télévision ?
Ça m'arrive, je l'ai beaucoup regardé enfant. Je crois que ce roman en témoigne un petit peu. Et ça m'arrive, mais assez rarement, je dois dire.
Par les temps qui courent, qu'a-t-on à apprendre du regard des enfants ?
Beaucoup, et encore plus quand ils grandissent et qu'ils reviennent sur ce regard.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec l'auteur de BD italien JP. Et quand vous voulez, franceculture.fr et en podcast. Au son ce soir, c'était Emmanuel Arming, à la réalisation Lise-Marie Barré. Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debecq-Delièvre m'aident à préparer cette émission chaque jour. Et quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.